Chapitre 31. D'août. Salem, Massachusetts. Dimanche 25 juillet 2010. Lorraine n'était pas venue avec nous. Elle avait emmené Eric à Kennebunk retrouver la plage de leur enfance. Patricia, elle, avait convenu avec Gale Wood qu'elle profiterait de leur absence pour interroger discrètement Janet et Mark Donovan au sujet de leur fils. Au moment de franchir la frontière avec le Massachusetts, Gale Wood me demanda
« À quoi vous pensez, l'écrivain ?»«
À Eric Donovan, sergent. »«
Moi aussi. Il est le point commun à toute cette histoire. Il semble être mêlé à tout alors que plus rien ne l'accuse. »
Ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas tenté de tuer Kaczynski puisqu'il était en prison. Il y avait quelqu'un d'autre au volant de cette voiture bleue. Cette voiture qui relie Alaska, Eleanor et Kaczynski. Il était évident que l'amant d'Eleanor Lowell, cet homme d'âge mûr sur le point de divorcer, était une pièce clé du puzzle. Nous espérions que les amis d'Eleanor nous apporteraient des indices supplémentaires à son sujet.
« Par qui commence-t-on ? » me demanda Gallowood.
Je me saisis de la liste que nous avait préparée la mère d'Eleanor et que nous n'avions pas encore précisément étudiée. « On peut suivre l'ordre établi par Maria Lowell, suggérai-je. Il y a d'abord Melissa Williams, une amie d'enfance. Elles ont fait toute leur scolarité ensemble. Ensuite, Tiffany Paulson, qui avait fait la connaissance d'Eleanor en clinique psychiatrique lorsqu'elles avaient toutes les deux 16 ans. Et après ça, Brooke Rizzo, une amie, également mannequin. Et... » Gale Wood m'interrompit.
« Ce nom me dit quelque chose. Qui sont les autres ?»
Je percutai aussitôt et reconnus les noms des amis d'Alaska qui nous avaient mis sur la piste d'Eleanor Lowell 9 jours plus tôt. Il s'agit d'Andrea Brown, Stephanie Lehan et Michelle Spitzer, enchaînai-je. Ce sont les mêmes noms que ceux que nous a donnés Donna Sanders. Nous avons déjà interrogé ces mêmes femmes, mais à propos d'Alaska.
« La boucle est en train de se boucler, » s'exclama Gale Wood. « Une même voiture bleue, un même groupe de copines. Je commence à me demander si la disparition d'Eleanor n'est pas liée au meurtre d'Alaska.
Vous voulez dire qu'Eleanor ne se serait pas suicidée?
Elle partageait peut-être le même amant, et si elle partageait aussi le même tueur? C'est une piste à envisager sérieusement.
Nous commençâmes nos entrevues avec Michelle Spitzer, qui avait été la première à nous parler d'Eleanor. Michelle Spitzer. Bien sûr que nous étions toutes copines, je vous l'avais dit d'ailleurs. Nous nous étions rencontrées au fil des différents concours et nous avions constitué une petite bande.
Si nous étions jalouses?
Non, seules Alaska et Eleanor en avaient fait leur métier. Pour les autres, on avait participé à ces concours quand on était encore adolescente, pour s'amuser. En 1998, c'était déjà de l'histoire ancienne. On était pour certaines à l'université ou alors on travaillait déjà. Eleanor, elle était cyclothymique. Elle se confiait peu. Il fallait la prendre comme elle était. Je sais qu'elle avait fricoté avec un vieux pendant un bon moment. Elle n'en parlait jamais, elle était très secrète. Elle avait évoqué un type dans la cinquantaine. Il faut demander à Brooke, elle adore ce genre d'histoire. Moi, je m'en fichais pas mal. Je trouvais ça plutôt triste, en fait.
Brooke Rizzo.
Pourquoi je ne vous ai pas parlé d'Eleanor Lowell? J'en sais rien. Vous ne l'avez pas mentionné non plus. Vous me parliez d'Alaska, de Walter, de Mande Plaisante. Je n'ai pas fait le lien avec Eleanor. En quoi le suicide d'Eleanor concerne l'enquête sur Alaska?
Ah oui, avec son vieux, ça n'en finissait pas. Je n'ai jamais su qui c'était. La mère d'Eleanor a cherché à le retrouver, mais Eleanor avait parfaitement gardé son secret. J'avais demandé un jour à Eleanor pourquoi elle n'en parlait jamais. Elle m'a répondu « pour lui éviter des problèmes ».
Non, le vieux n'était pas Eric Donovan. Il n'était pas vieux, Eric.
Oui, je connaissais Eric. On le croisait souvent quand on sortait dans les bars.
Eleanor n'avait dit à personne qu'elle sortait avec lui. Elle me l'avait confié un soir où on était tous ensemble, justement. Il y avait aussi Walter qui faisait de l'œil à Alaska. J'ai dit à Eleanor que Walter était beau gosse, et puis bien foutu. Elle m'a avoué qu'elle préférait Eric et qu'ils couchaient régulièrement ensemble, d'ailleurs, mais que cela devait rester un secret pour que le vieux ne l'apprenne pas. Comme si elle en avait peur. Je lui ai demandé un jour ce qu'elle lui trouvait à son vieux. Elle m'a répondu « Je suis amoureuse, c'est comme ça. »
Andrea Brown.
De la jalousie entre Eleanor et Alaska? Oui, mais c'est venu tard. Pendant longtemps, il n'y a jamais eu d'histoire. Puis entre les deux, chacune faisait son petit bout de carrière.
Eleanor dans le mannequinat. Alaska voulait devenir actrice. Mais cet été-là, Eleanor s'est aussi mis dans la tête de réussir à Hollywood. Je sais pas trop pourquoi. Alaska nous parlait de son agente à New York qui croyait en elle, et j'imagine que ça a agacé Eleanor. Mais je ne crois pas qu'Eleanor voulait du mal à Alaska. En tout cas, je n'ai jamais vu de tension en public. Il y a juste eu cette conversation alors qu'on déjeunait, Eleanor et moi. Elle venait d'être élue au jury de Miss Nouvelle-Angleterre. Je lui ai dit « Faudra que tu pousses Alaska, ce serait bien pour sa carrière si elle gagne ». Elle m'a fusillé du regard et elle m'a dit « Ça jamais, je veux pas qu'elle réussisse cette salope. Elle commence à me faire de l'ombre ». Vous avez posé la question à Stéphanie. Sa mère et la mère d'Alaska étaient très amies.
Oui, on peut dire qu'Eleanor n'avait pas froid aux yeux. Elle aimait l'été aller se baigner à Chandler Ovi Park. Elle y restait tard, parfois seule. Elle disait qu'elle n'avait pas peur des rôdeurs. Elle gardait une matraque télescopique dans son sac, au cas où.
Perry Gallwood, très étonné.
Vous dites qu'Eleanor se promenait avec une matraque télescopique ?
Andrea Brown.
Oui, en tout cas le soir, elle l'avait toujours dans son sac à main. Pourquoi ?
Perry Gallwood.
Parce qu'Alaska Sanders a été tuée avec une arme similaire.
Stéphanie Lehan.
Oui, j'ai eu écho de tension entre Alaska et Eleanor à cause du concours de Miss Nouvelle-Angleterre. La mère Sanders en avait parlé à la mienne. Dans ce petit milieu, tout le monde jalouse tout le monde. Bah oui, ça a bien arrangé les Sanders qu'elle ne soit plus là, Eleanor. Je ne sais pas si Alaska aurait gagné le concours avec elle dans le jury. Apparemment, Eleanor était déterminée à l'écarter. Non, j'ai jamais rencontré son mec, mais on en parlait souvent entre nous. Qui était ce vieux schnock à qui elle vouait un culte ? On n'a jamais rien su à son propos.
Moi si, juste une fois, au début août 1998. Je m'en souviens car c'est la dernière fois que j'ai vu Eleanor. On a bu un café ensemble, elle avait un petit sac de voyage. Je lui ai demandé où elle allait, elle n'a pas voulu me répondre. Mais sa voiture était au garage pour une réparation et elle m'a demandé de la déposer à la gare routière. Je l'ai fait puis je l'ai discrètement suivie. Je pensais qu'elle allait retrouver son mec et je voulais vraiment savoir à quoi il ressemblait. Mais elle est simplement montée dans un bus pour Rockland, Maine. Elle était seule.
Si Eleanor était avec son amant à Rockland, dans le Maine, le 4 juillet, et qu'elle y était retournée au mois d'août, cela signifiait que notre homme habitait là-bas. En sortant de chez Stéphanie Lehan, Gallwood me dit
« Une voiture bleue, une plaque du Massachusetts, un homme d'âge mûr divorcé et Rockland, Maine. Mettez ces pièces ensemble et vous touchez le gros lot. »
Nous venions d'embarquer dans ma voiture lorsque Gallwood reçut un appel sur son téléphone portable. C'était un agent de permanence à l'accueil du quartier général de la police d'État qui le contactait.
« Désolé de vous déranger un dimanche, sergent. La mère du sergent Vance est à l'accueil. Elle vous réclame. »
Nous rejoignîmes aussitôt le New Hampshire. Dans le bureau de Gallwood, une petite dame frêle nous attendait.
« Madame Vance ?»«
Perry !»
Elle eut un mouvement spontané et se jeta dans ses bras. Ils ne s'étaient rencontrés qu'à une seule occasion, l'enterrement de Matt Vance.
« Qu'est-ce que vous faites ici ?»
s'enquit Gallwood.
« Il fallait que je vous parle, à propos de ce qu'ils ont dit à la télévision, à propos de l'affaire Alaska Sanders.
C'était la dernière affaire de Matt, c'est ça ?»«
C'est bien ça. »
Ils ont dit qu'un policier aurait contraint un suspect aux aveux avant de commettre une bavure. Est-ce qu'il s'agit de Matt ? Si c'est lui, dites-le-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir, j'ai le droit de comprendre ce qui se passe.
« Madame Vance, » dit Gallwood, « je suis absolument désolé de ce que je m'apprête à vous apprendre. Mais puisque vous êtes venu jusqu'ici en quête de vérité, je vous la dois. »
Gallwood dévoila à la mère de son ancien coéquipier l'exact déroulé des événements du mardi 6 avril 1999 qui avait conduit à la mort de Walter Carey puis au suicide de Matt Vance. Au terme du récit, la petite dame resta sidérée. Quand elle fut en état de parler à nouveau, elle dit à Gallwood
« Je me souviens d'une des premières affaires de Matt quand il était à la police de Bangor. Une jeune fille de 17 ans avait été tuée en rentrant à pied d'une soirée chez une amie, Gabby qu'elle s'appelait. La malheureuse avait été battue à mort et tellement défigurée que ses propres parents n'avaient pas pu l'identifier. Ils n'ont jamais retrouvé le coupable. Et quand son supérieur lui a demandé d'abandonner le dossier faute d'éléments, Matt en a été malade. Il me disait « Mais c'est pas possible, Ma, on ne peut pas s'avouer vaincu. J'ai promis aux parents de cette gamine qu'on retrouverait celui qui a fait ça.
Au cours des années, il m'a raconté que tous les matins, il pensait à cette gamine. Il revoyait ce visage broyé. C'était de la purée humaine, qu'il disait. Cette histoire l'a hanté. Par deux fois, croyant tenir un type qui aurait pu être mêlé au meurtre de Gabi, il lui a enfoncé son pistolet dans la bouche pour le faire avouer. Il m'a confié « Je revoyais le corps de Gabi dans ce fossé et j'imaginais ce gars en train de lui défoncer le visage à coups de poing, j'ai pété un plomb. » Matt a fini par être dénoncé par un collègue et sa hiérarchie l'a prié de trouver un emploi ailleurs, quelque part où le spectre de Gabi le laisserait en paix. Malheureusement, comme on pouvait s'y attendre, Gabi l'a suivi jusque dans le New Hampshire. Matt n'a jamais voulu d'enfant à cause d'elle. Il disait qu'il ne voulait pas vivre un jour ce que les parents de Gabi avaient vécu. Il n'a jamais vraiment eu de relation sérieuse, aussi à cause de ça, je crois. Il était trop tourmenté. La dernière fois que j'ai parlé à Matt, c'était le week-end avant sa mort. Il m'a raconté au téléphone qu'il était sur une affaire, une jeune femme retrouvée morte au bord d'un lac. Je n'ai jamais oublié son prénom car il était tellement singulier. Alaska. Il m'a dit « Ma, je vais raccrocher, je ne peux plus faire ce métier. Je vais boucler cette affaire et en bouclant cette affaire, je me pardonnerai de n'avoir jamais pu retrouver le meurtrier de Gabi. » Ce fut notre dernier échange.
Madame Vance s'interrompit. Le silence dans la pièce fut terrible.
« Je suis désolé de tout ce qui s'est passé, »
murmura finalement Galwood.
« Vous n'avez rien à vous reprocher, Perry, vous n'étiez pas là. »«
Justement. »
Elle dit alors, « À la télé, ils disent que mon fils va être dégradé à titre posthume. Qu'on le fasse si ça fait plaisir à l'opinion publique. Qu'on détruise sa pierre tombale tant qu'on y est. Et je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Ça ne rendra pas la vie à ce pauvre garçon ni à Alaska. Mais vous, Perry, vous pouvez réparer tout ça en bouclant l'enquête. Je sens l'âme de Matt encore agitée qui tambourine dans son cercueil en quête de rédemption. Offrez-la lui, Perry, ainsi qu'aux parents de cette petite. Retrouvez le meurtrier. » Lors de notre dernier appel, Matt m'a dit « Tout ce que je veux, Ma, c'est aller voir les parents d'Alaska et leur dire que justice
a été rendue. »
L'interrompit Galwood en terminant sa phrase.
« Comment le savez-vous ? »
Votre fils me l'avait dit aussi.
Sur la route qui nous ramenait vers Mount Pleasant, Galwood me confia
« Je suis fatigué, l'écrivain. Il est temps de boucler cette affaire. Après ça, je vais raccrocher, moi aussi. »
« Vous voulez quitter la police, sergent ?»«
En tout cas, faire une pause. Vous saviez quel était le rêve d'Hélène ? Partir en famille sur un voilier faire le tour du monde. » Voilà ce que je voudrais faire quand on aura terminé ici. Partir avec mes filles.
C'est un beau projet, lui dis-je.
Il y aura peut-être une place pour vous à bord, l'écrivain.
Merci, sergent, mais deux, trois choses à régler avant de venir pourrir votre croisière.
Vous ne pourrissez rien, l'écrivain. Au contraire.
En fin d'après-midi, dans ma chambre d'hôtel à Mount Pleasant, je jouais avec le billet de concert que m'avait remis Harry. Le concert d'Alexandra Neville avait lieu ce soir. C'était bientôt l'heure du fameux rendez-vous. Allais-je m'y rendre ? Je restais longuement indécis. Je tenais dans une main la photo représentant mes cousins, elle et moi, et dans l'autre, le billet. Je décidai finalement d'y aller. Je partis en catimini, je ne voulais pas donner d'explication à qui que ce soit. Dans la chambre voisine, Galwood était plongé dans les documents que nous avait confiés la mère d'Eleanor. Alors que je venais de monter dans ma voiture, je reçus un message de Lorraine. « Tu viens chez moi ?» Ma réponse. « Non, je vais rester tranquillement à mon hôtel. Si tu ne m'en veux pas, je suis crevé. » Je partis. Je roulais jusqu'à Boston, au TD Garden, où se jouaient les matchs de basketball, de hockey et les grands concerts. J'ignore à quelle époque vous lirez ce livre, mais si vous suiviez la mode musicale dans les années 2010, vous avez forcément entendu parler d'Alexandra Neville, qui était la chanteuse du moment. Une fois sur place, je passais le contrôle des billets et consultais mon numéro de siège pour savoir où me diriger. Je ne l'avais pas vue derrière moi. Elle m'avait suivi jusqu'où elle avait pu avant d'être stoppée à l'entrée faute de billets. Elle me regarda disparaître, bouleversé par mon mensonge. C'était Lorraine. Le lendemain du concert, Lorraine me donna rendez-vous au Season pour un café. Elle m'attendait à une table, les bras croisés et le regard sombre. Pour toute salutation, elle me gratifia d'un sec « assieds-toi ».